anges chargés de bruit, la ville n'est pas loin. Ah, des parfums de vigne et des parfums de bière.
Radio Sans Fréquence, la radio du Centre culturel Aveyron, Ségala-Viaur.
Bonjour et soyez les bienvenus à Radio Sans Fréquence, dans l'émission Les Rolling Stones, le groupe rock le plus important de tous les temps. Une histoire en trois parties. Première partie, Time is on my side. Le temps jouera pour moi. Angleterre, octobre 1960. Mick Jagger et Keith Richards, deux amis d'enfance qui s'étaient un peu perdus de vue, se retrouvent par hasard sur le quai de la gare de Dartford, dans le Kent. Mick a des disques avec lui, ce qui incite Keith à venir lui parler. Poussé par leur intérêt commun pour le blues américain, ils décident de former un groupe. En mars 1962, les deux vont ensemble voir le Blues Incorporated, groupe monté par le pionnier de blues britannique Alexis Corner et ouvert à de nombreux musiciens. Parmi les musiciens qui montent sur scène ce soir-là se trouve Brian Jones, qui impressionne le public en jouant de la guitare slide, à l'époque inconnue en Europe.
Too lazy to crow for day. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard. Upset in every way.
Soucieux de monter son propre groupe, Brian Jones passe une petite annonce dans le journal Jazz News. Il pense appeler son groupe les Rolling Stones, d'après un titre de bluesman américain, Muddy Waters. Le pianiste Ian Stewart répond à l'annonce. Alexis Corner lui-même suggère à Brian Jones d'engager Mick Jagger comme chanteur et ce dernier impose alors son ami et guitariste Keith Richards. Donc, Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger et Keith Richards forment l'ossature du groupe qui prendra le nom The Rolling Stones. Le premier concert des Stones a lieu le 12 juillet 1962 au Marquee Club de Londres. Six mois plus tard, les Stones jouent leur premier concert avec la formation qui restera pratiquement inchangée jusqu'en 1969. Mick Jagger au chant, Keith Richards et Brian Jones aux guitares, Bill Wyman à la basse, Charlie Watts à la batterie et Ian Stewart au piano.
Had no peace in the farm yard since my little red rooster's been gone.
À l'époque, les Beatles viennent de sortir leur premier 45 tours, Love Me Do. Andrew Luke Oldham, jeune publicitaire qui n'a que 19 ans, ne rêve que de rencontrer et manager ces Beatles. Dans son parcours des clubs de Londres au printemps 1963, il découvre les Stones et dès le lendemain, signe avec eux un contrat et devient leur producteur. Avec leur nouveau manager, leur carrière décolle. Il leur obtient un contrat avec la maison de disques Decca à des conditions très avantageuses. Afin de se démarquer des Beatles, apparus un peu plus tôt et dont la popularité est exceptionnelle, le jeune producteur des Stones leur crée une image de mauvais garçon. En opposition à l'allure de gendre idéal des membres du Fab Four, Jagger et sa bande cultivent leurs différences. Pour leur première apparition télévisée, leur allure, pourtant si courante aujourd'hui, paraît outrancière. Leurs cheveux longs, qui pourtant recouvraient seulement leurs oreilles, font scandale. Ce style original et leur attitude parfois méprisante sont encouragés par Lou Goldham. Il interdit le sourire sur toutes les photos du groupe et n'hésite pas à demander aux mamans de jeunes filles « Laisseriez-vous votre fille sortir avec un Rolling Stone ?» De plus, il vire Ian Stewart du groupe. D'après Lou Goldham, un groupe de six membres est en excédent. Et le look de Stewart, trop démodé, ne conforme pas à l'image des Stones. Stewart restera cependant comme régisseur des tournées et pianiste sur scène jusqu'à sa mort en 1985. 1963, voit la sortie de 3 45 tours, chacun une petite réussite en Grande-Bretagne et d'une tournée au Royaume-Uni. L'année suivante, le groupe part en tournée aux États-Unis. Selon le contrebassiste Bill Wyman, la dernière était une vraie catastrophe. Mais le 45 tour « It's all over now »,« Tout est fini maintenant », leur a donné leur premier numéro 1 en Grande-Bretagne.
Stay out all night long. She made me cry. She done me wrong. She hurt my eyes open. That's no lie. Tables turning now. Her time to cry. Because I used to love her, but it's all over now. Because I
C'est à cette époque que Brian Jones commence à manquer quelques concerts pour raison de santé et à se perdre dans ses conquêtes féminines et leurs conséquences. Il a déjà deux enfants dont le premier est né d'une fille qui n'a que 14 ans quand elle accouche. Sa position de leader de groupe est de plus en plus contestée depuis l'arrivée de Luke Oldham. Selon Luke Oldham, Brian Jones était depuis le début à l'écart du groupe. En tournée, il ne voyageait pas avec les autres membres du groupe, ne dormait pas dans les mêmes chambres et exigeait une paye supplémentaire en qualité de leader, ce qui provoquait un certain ressentiment de la part des autres musiciens du groupe. C'est le début d'une fissure qui se crée entre Jones et le reste du groupe. De plus, Luke Oldham voulait que les Stones commencent à écrire leurs propres chansons, comme l'ont fait Lennon et McCartney pour les Beatles. Il a même sollicité les Beatles pour leur écrire « I Wanna Be Your Man »,« Je veux être ton Jules ». Il était difficile pour les Stones de trouver quelque chose de nouveau à jouer, parce que beaucoup de chansons de leur répertoire étaient jouées par d'autres groupes britanniques, dont les Beatles, ce qui ne les aidait pas à se démarquer. Sans nul doute, Jones était, à l'époque, le musicien le plus doué du groupe. Mais il ne possédait aucun talent pour la composition musicale. Luke Oldham décide de pousser le duo Mick Jagger et Keith Richards à composer leurs propres titres et donc à s'imposer comme les meneurs du groupe. La responsabilité de Brian Jones sur les directions musicales devient donc presque obsolète. De plus, la décision prise entre Oldham et Jagger que ce dernier devienne le leader du groupe, faite acceptée par Jones dans l'intérêt du groupe, pousse Jones au second plan. Tout se passe comme prévu. En février 1965, The Last Time, la dernière fois, est devenue la première composition Jagger-Richards à atteindre le numéro 1 en Grande-Bretagne. Quelques mois plus tard, ils en auront deux numéro 1 sur les deux côtes de l'Atlantique. La deuxième, Get Off My Cloud, Descends de mon nuage, est précédée d'une des chansons les plus célèbres des années 60, leur premier numéro 1 en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Richards disait qu'il avait imaginé en rêve la mélodie jouée à la guitare, mais il avait toujours envisagé qu'elle soit jouée par des cuivres. Lou Goldham est d'un autre avis et produit la sortie de la chanson en 45 tours sans les cuivres. Bonne pioche. Les Stones ont le vent en poupe et le style musical commence à changer. Les blues, de 4 dernières années, est en train d'être remplacé par un rock plus britannique avec des références à la culture psychédélique et aux nouvelles habitudes de l'époque. Mother's Little Helper, le petit remontant de la mère, raconte les usages quotidiens abusifs des barbituriques et d'antidépresseurs. Tandis que, avec 19th Nervous Breakdown, la 19e dépression nerveuse, il raconte les dépressions des jeunes. De leur premier chef-d'œuvre, Aftermath, la suite, les Stones introduisent des influences psychédéliques et de la musique indienne, en particulier sous l'impulsion de Brian Jones. Jones joue du dulcimer sur Lady Jane, des marimbas dans Under My Thumb, sous ma coupe, et du sitar dans Painted Black, peint-le en noir. Sera l'année des dernières tournées avant un grand break. Ils avaient tourné de façon ininterrompue depuis leur début, donnant entre 250 et 300 concerts par an. Comme les Beatles, les Stones avaient subi l'hystérie des foules dans les salles et en dehors. Particulièrement éprouvant, les concerts des Stones tournaient souvent à l'émeute, à cause des fans qui tentaient de monter sur scène ou des bagarres dans le public. De nombreuses fois, les Stones furent contraints de s'enfuir de scène au bout de quelques minutes, poursuivis par des fans acharnés. Les coups de dégâts et le nombre de blessés sont parfois importants. Après leur 5e tournée américaine et la 8e britannique, toutes deux en 1966, les Stones s'accordent du repos. L'année 1967 est surtout consacrée aux activités parallèles et ils s'investissent dans différents projets personnels. Mais 1967 est aussi l'année des premiers problèmes qui vont ébranler le groupe, et particulièrement Brian Jones. Le 12 février 1967, Jagger et Richards sont arrêtés pour possession de drogue. Le quotidien conservateur, The Times, viendra d'ailleurs à leur secours avec une superbe éditoriale en leur faveur, prémisse des changements de société en cours. Ils sont vite relaxés. Mais si Mick et Keith arrivent à se sortir de leurs ennuis judiciaires, Brian Jones, lui, connaît plus de difficultés. Arrêté une première fois en mai 67, puis une deuxième fois en mai 68, il vit très mal cette situation et souffre de dépression nerveuse. Sur le plan sentimental, Brian Jones connaît aussi de nombreux déboires. Alors qu'il est hospitalisé en 1967 tout près de chez nous, à Albi, pour une crise d'asthme sur le trajet d'un voyage au Maroc, Keith Richards entame une liaison avec sa petite amie Anita Pallenberg. Lorsqu'il reviendra de convalescence, Keith, Anita, Mick Jagger et Marianne Faithfull abandonneront Brian au Maroc sans lui laisser un mot. Cette rupture sera le début de tensions entre les deux guitaristes du groupe et le début de la fin pour Brian Jones. Sur le plan musical, le succès de 45 Tours continue avec Let's Spend the Night Together, Passons la nuit ensemble, leur premier numéro 1 en France, et Ruby Tuesday. Pourtant, l'album Their Satanic Majesty's Request, Leur Majesté Satanique Demande, qui sort en décembre 67 et porte largement la patte expérimentale de Brian Jones, n'aura sur le moment qu'un succès mitigé, déconcertant même quelques fans du blues pur et dur. Interrogé sur celui-ci, John Lennon commente ironiquement : « Les Stones font tout, 6 mois après nous, Sgt. Pepper des Beatles était sorti en juin de cette année. C'est une pique amicale et pas une déclaration de guerre. John Lennon, Brian Jones et Mick Jagger conserveront les meilleures relations qui soient dans le privé. En 1967 marque aussi une rupture définitive avec Andrew Lou Goldham. Craignant des poursuites des autorités britanniques sur l'usage de drogue par des membres du groupe et leur entourage, Lou Goldham s'enfuit aux États-Unis. Les Stones considèrent alors qu'il les a abandonnés. C'est la fin de sa participation et de son influence. Cela faisait quelques années que Brian Jones, fondateur et guitariste des Stones, était à l'écart du groupe. Depuis que le duo Jagger et Richards s'était imposé dans la création musicale, il avait perdu de son influence et vivait mal cette situation. L'abus de drogue et d'alcool, les diverses arrestations et le fait qu'Anita Pallenberg, son ancienne petite amie, soit désormais dans les bras de Keith Richards n'avaient pas arrangé les choses et ses relations avec le reste des membres du groupe. Les participations de Jones aux albums sont de plus en plus erratiques, comme le montre une des séquences du film de Jean-Luc Godard, réalisé en 68, Sympathy for the Devil, Compassion pour Satan. Il a du mal à se concentrer et à jouer en studio, les techniciens de son allant jusqu'à le laisser interpréter un morceau tout en coupant son micro de façon à ne pas enregistrer de fausses notes. Plus grave encore pour le groupe, ses problèmes judiciaires ne lui permettent plus de suivre le groupe en tournée, puisque les États-Unis ne lui délivreront pas de visa. Incapable d'assurer les enregistrements studio et les concerts, et sous la pression des autres membres des Stones, il se retire du groupe le 9 juin 1969. Quelques semaines plus tard, Brian Jones meurt, noyé dans sa piscine. L'autopsie révélera qu'il avait pris une certaine quantité d'amphétamines et d'alcool, mais aussi que sa santé générale était particulièrement détériorée en raison de son usage massif d'alcool et de stupéfiants. Le rapport d'autopsie conclut à une mort par accident. Le soir même du premier concert des Stones, en 62, Richards avait dit à Jones ces mots devenus tristement célèbres. « Tu n'arriveras pas à 30 ans, pas vrai ? » ?»« Il n'a que 27 ans. » Les Rolling Stones rendront hommage à leur ancien guitariste 2 jours après sa mort. À l'occasion d'un concert gratuit programmé de longue date dans le Hyde Park à Londres, afin, à l'origine, de présenter leur nouveau guitariste. Le 5 juillet 1969, devant 300 000 spectateurs, Mick Jagger lit des extraits de Adonais de Percy Shelley en hommage à Jones, suivi par un lâcher de milliers de papillons blancs. Brian Jones est enterré le 10 juillet 1969 dans le cimetière de Cheltenham, sa ville natale. Les seuls Rolling Stones présents sont Charlie Watts et Bill Wyman.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost.
Et c'est en écoutant la jolie flûte à bec de Brian Jones que nous arrivons à la fin de notre émission. Vous écoutiez les Rolling Stones, le groupe rock le plus important de tout le temps, une émission proposée par Ewan Davidson. Mes remerciements à Julien, ici dans le studio, à Jean-François qui lutte toujours contre mes bêtises en français et à toute l'équipe du Centre culturel Aveyron Ségala Viard. Surtout, merci à vous de m'avoir accompagné. Bonne journée et bonne continuation d'écoute sur Radio Sans Fréquence.
Lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind?